Les parts actualité. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 octobre 2016, c'est Clotilde Seille en votre compagnie sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui à l'émission Incendie, un nouvel outil pour protéger les personnes handicapées. Également la boutique des 120 trésors de Buckingham, des achats alimentaires pour la bonne cause, un programme d'écriture pour revisiter ses buts après la maladie, Luca Wild, un sourd qui fait beaucoup de bruit, et puis aussi deux entrevues aujourd'hui, d'abord avec Kevin Breton, animateur à Ami Télé au sujet de la nouvelle programmation et des nouvelles émissions, et Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, autrement dit le RAC. Alors, Incendie d'abord, un nouvel outil pour protéger les personnes handicapées. Il s'agit de la MRC des Laurentides, mais on espère que ça va donner d'autres bonnes idées à d'autres régions du Québec, qui a mis sur pied le programme Secours adapté afin que ces pompiers soient mieux outillés pour intervenir auprès des personnes handicapées. L'initiative est partie de Laurent Quérac, un pompier à Val-David et spécialiste en sécurité publique pour la municipalité régionale de Comté, la MRC. Il y a 2 ans, il a lui-même été confronté à une situation qui l'a conscientisé aux gens souffrant d'handicap physique et intellectuel. Alors que nous combattions un incendie, nous avons dû aller chercher au 2e étage 2 personnes qui souffraient d'handicap au niveau moteur. Nous avons perdu beaucoup de temps pour organiser leur sauvetage et ce délai aurait pu être fatal, raconte-t-il. Et c'est une situation, hélas, assez courante. D'après les statistiques du ministère de la Sécurité publique, bien que seulement 15% de la population québécoise souffre d'un handicap, ces personnes représentent 39% des victimes dans les incendies. Pour que le 911 sache où se situent les personnes handicapées sur le territoire, il est demandé à ces dernières de remplir un formulaire et de le remettre au service d'urgence. Plusieurs autres acteurs œuvrant avec cette clientèle, tels les infirmières à domicile et le transport adapté, ainsi que les inspecteurs municipaux qui peuvent constater dans le cadre de leurs fonctions la présence d'une personne handicapée, sont aussi mis à contribution. Ce formulaire est confidentiel, précise Laurent Quérac. Il n'y a que la centrale 911 qui en possédera une copie. L'information ne sera divulguée nulle part ailleurs. Ces formulaires sont disponibles auprès de votre municipalité ainsi que des dépliants, expliquant davantage le programme. Des piétons en danger malgré des travaux majeurs pour réparer les routes de la ville de Québec, bosselées, trouées, rafistolées, semi-asphaltées, recouvertes en partie de pierre. Des rues du centre-ville de Québec sont dangereuses pour les piétons malgré les investissements majeurs pour repaver les routes de la capitale. Parlez-en par exemple à Léo Connor qui doit circuler chaque jour en fauteuil roulant à cause de son handicap. Il dit, il y a des endroits comme ici, entre autres, où ce n'est pas sécuritaire. Il y a des trous. Pour un centre-ville, c'est dangereux, même pour les piétons, les gens qui ont de la difficulté à marcher ou à voir. Ce n'est vraiment pas sécuritaire, relate-t-il. Les personnes plus âgées soutiennent aussi que les chaussées du Nouveau-Saint-Roch et du Vieux-Québec sont un calvaire pour les déplacements. Les rues sont maganées. On n'est pas capable de marcher avec une marchette dans le chemin. Il y a des places où ça bloque, explique par exemple Bertrand Chiasson, rencontré en basse ville. Il faut à tout prix arranger ça. Alors que vont-ils faire à Québec? Eh bien, pardon. Cette semaine, la ville de Québec a mis à jour son bilan des travaux d'asphaltage majeurs qui doivent être terminés d'ici la fin du mois. Après 6 mois d'efforts, 61% de l'opération du maire a été réalisée. En avril dernier, le maire Régis Labeaume qui avait promis que l'ère du patchage des nids de poules était terminée et que d'ici l'automne, 227 km de route seraient asphaltées. Ainsi, la ville pourra faire face aux multiples conditions météorologiques hivernales qui nuisent à la qualité des routes. Le projet, asphalter 227 km de rue d'ici la fin octobre. D'ici 12 mois, 500 chantiers sur le territoire de Québec pour l'asphaltage des rues. Tout cela devrait couvrir 65% de toutes les plaintes qui sont entrées à la ville de Québec. Et ce sont des travaux qui coûteront de 12 à 15 millions de dollars. Il a travaillé avec nous pendant un certain temps et puis nous l'avons perdu à regret. Mais par contre, nous sommes très heureux qu'il puisse s'adresser à vous quasiment ben, tous les jours. Ah, quoi que ça va peut-être changer, il va nous le dire. J'évoque ici, bien sûr, Kevin Breton qui est à l'autre bout. Bonjour, Kevin.
Allô, Christelle. Très, très heureux de te retrouver, toi et tous les auditeurs du Canal M.
Ben, c'est très gentil. Écoute, nous aussi. Alors, te voici, parce que je ne l'ai pas encore dit, te voici maintenant depuis ben, presque un an maintenant. Hein?
Ça fait un peu plus que 6 mois. En fait.
Un peu plus que 6 mois, mon ouais. Dieu. 6 mois déjà, sur Ami Télé.
Voilà.
Et sur Ami Télé, c'est toi qui as entre autres... On va se tutoyer, hein, puisque tu m'as tutoyé, malheureusement.
Oui.
Non, parce qu'on ben, va pas faire semblant quand même. Kevin, c'est toi qui as repris les rênes de l'émission Ça me regarde, avec notamment Christine Rousseau. Mais là, il y a un nouveau déchangement à cette émission-là. Explique-nous ça un petit peu.
Oui, donc ben, l'émission en question, c'est Ça me regarde,
ouais.
Sur Ami Télé. On connaissait déjà donc la formule précédente qui a fait tout le succès des deux premières saisons, alors que Luc Fortin était à la barre de l'émission. L'année dernière, il y a eu du changement. Donc, moi et Christine Rousseau, mm-hmm. que vous connaissez également, Canal M, on s'est partagé la tâche. Donc, moi, je faisais environ 2 émissions par semaine et elle, une.
Oui.
Et cette année, nouveauté, on passe à un format d'1 heure le samedi à midi. Et ce sera co-animé avec Christine. Donc, j'aurai le bonheur de recevoir toutes sortes d'invités les plus intéressants les uns que les autres. Mais je vais partager la tâche cette fois avec Christine.
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer en semaine?
En semaine, il y aura toujours plusieurs émissions sur les ondes d'Ami Télé. Il y a d'ailleurs une nouvelle émission qui a vu le jour cette saison-ci qui mm-hmm. s'appelle Ami Télé 360.
Oui.
Donc, c'était la première dimanche dernier.
Mm-hmm.
Ça, c'est un nouveau projet que je copilote avec notre journaliste sur le terrain ici, Jessie Archambault, que je vois pas souvent en dehors des heures de tournage parce qu'elle est tout le temps sur la route.
Oui, j'imagine.
On sait que le milieu des personnes handicapées en est un très, très actif. Donc, elle se met le nez un peu partout dans l'action et elle nous rapporte des reportages. Et la particularité de cette émission-là, puisqu'on sait qu'Ami Télé est diffusée d'un océan à l'autre, c'est qu'on va prendre des brèves des autres équipes sur le terrain, Edmonton, Halifax, Toronto.
Okay.
Et on les représente doublés en français, bien sûr, sur nos ondes. C'est un segment qui revient à chaque émission d'Ami Télé 360.
Bon, et quel... à Ça me regarde, je voudrais qu'on revienne un petit peu, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai failli le vous voyez. Aucune importance. Ça me regarde, on va rester sur les mêmes sujets qu'auparavant, Kevin?
Oui, tout à fait, parce
ouais.
que c'est plus dans la formule qui diffère, parce que comme à l'habitude, ben on garde nos chroniqueurs, donc c'est un magazine
oui.
de service, donc on va continuer de voir...
Qui sont-ils?
Monsieur Cousineau, je
oui.
pense que vous le connaissez
oui.
vaguement.
En littérature, évidemment,
voilà.
entre autres. Oui.
On a notre conteur François Beauregard qui vient nous présenter des chapitres de l'histoire, des personnages marquants de l'histoire des personnes avec un handicap. La chronique techno qui est toujours extrêmement populaire, donc on présente des applications notamment qui facilitent la vie des gens avec une basse vision, surtout la chronique sport qui est probablement ma chronique préférée étant donné que je suis un amateur. C'est bien.
Oui, je m'en souviens bien.
On a également la chronique Trucs et Trouvailles, puisqu'on a une petite fureteuse, Audrey Metcalf, qui se promène dans les allées de magasins, qui va dans des points de service, dans des boutiques, qui nous ramène des petits trucs pour la cuisine, pour la vie de tous les jours, qui aident les gens.
Mm-hmm.
Mais sinon, bien, on reçoit également des invités, et ce sont des visages, des voix qu'on a déjà
oui.
entendues, évidemment.
Des exemples, allez, des
oui,
exemples.
Oui, absolument. Ben, c'est sûr qu'il y a un sujet qui a fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, c'est concernant les traitements thérapeutiques pour les maladies des yeux à Cuba, donc
oui.
pour la rétinite pigmentaire et également pour la maladie de Stargardt. On sait que ma co-animatrice Christine Rousseau elle-même a la maladie de
oui.
Stargardt. Donc, parmi nos prochains invités, il y a la docteure Cynthia Kian, là, qui est vraiment une référence en la matière de la Société canadienne d'ophtalmologie, qui va passer à nos studios pour nous éclaircir sur ce sujet qui fait pas l'unanimité.
C'est ça, hein? Parce qu'on se dit, oui, c'est bien, mais prudence, quoi. Hein?
Exact. Voilà. Donc,
bon,
on va essayer de faire
d'accord.
le point sur ça. Sinon, toujours des reportages. On est allé tester l'accessibilité des nouveaux wagons Azure
oui.
Qui sont en service et qui vont être graduellement apparaître sur la ligne de métro
Oui.
Orange à la STM. Donc, on est allé les tester à savoir s'ils sont mieux que les modèles précédents. Ça fait également partie de l'agenda
Ah,
pour les
très
prochaines
intéressant.
émissions. Donc, on continue de parler beaucoup de handicap, handicap visuel, handicap
D'accord.
physique, également sans oublier la communauté sourde. Et des fois, on va ici et là parler d'autres maladies comme le
Voilà.
Parkinson ou l'Alzheimer.
Et Ami Télé 360, d'un océan à l'autre, hein, c'est bien le titre. Alors là,
Ouais.
par contre, là, vous allez vraiment taper d'est en ouest, comme on dit
Voilà.
ici, et avec, si je vous ai bien compris, des reportages qui vont nous arriver d'un petit peu partout au Canada.
Exactement. Donc, comme on a pu voir lors de la première dimanche dernière et qui est également
Oui.
disponible sur le site amitélé.ca si vous voulez la réécouter, en fin d'émission, il y a un blog qui est une espèce de compilation de montage de trois ou quatre reportages qui ont attiré notre attention à travers le pays, parce que Ami Télé a des filières un peu partout à travers le
Oui.
Canada. Donc là, on profite de leur travail pour reprendre les reportages, les doubler en français et les
Oui.
présenter. Et sinon, c'est composé d'autres reportages qui sont faits par Jessie Archambault à Montréal, mais aussi ailleurs, parce que on a également des réalisateurs à Québec et on se promène un peu partout dans
Oui.
la province.
Moi, j'ai une prévision et je vous prédis pour cette émission-là que ça va pas rester mensuel, ça. Vous allez
Ah, ben
avoir.
peut-être, peut-être ça va donner des idées à notre productrice.
Ben, en tout cas, moi, je serai vous, je pousserai un peu parce qu'il me semble qu'il va y avoir tellement de choses à traiter, tellement,
C'est vrai que ça fait
qu'une
des
par
émissions
mois, là.
chargées.
Oh, que oui, oh, que oui. Et fort intéressante. Alors, c'est pour ça, je pense que Ami Télé à la télévision, Canal M, nous ici à la radio, il est évident c'est un service essentiel, Kevin, et je vous remercie beaucoup. Et non, on vous en veut pas du tout que vous soyez parti. Et on est très, très heureux pour vous et très heureux pour les spectateurs d'Ami Télé de vous avoir dans leur petit écran aussi souvent.
Merci beaucoup. Continue ton bon travail, Clotilde.
Salut Kevin.
À
À
bientôt.
bientôt, bye. Actualité régionale, c'est avec beaucoup d'émotion que la commission scolaire au cœur des vallées, la CSCV et le centre de la cité ont procédé à l'ouverture de la boutique des 121 trésors située sur le chemin Lépine à Buckingham. Plusieurs élèves, parents, membres du personnel, gens de la communauté et dignitaires ont assisté à l'inauguration de la boutique des 121 trésors. C'est en très grand nombre que des élèves, des parents, des membres du personnel, des gens de la communauté et des dignitaires ont assisté à l'inauguration de cet établissement qui accueillera près de 75 élèves de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle, motrice ou du langage. Ceux-ci pourront accroître leurs compétences à travers des situations concrètes de vie et développer leur employabilité vers certains métiers. Certains des élèves auront par exemple la possibilité d'aller sur le marché du travail, alors que d'autres vont rester avec la CSCV pendant des années, indique Nathalie Charette, qui est la directrice de formation générale adulte à la CSCV et qui indique que l'endroit est adapté aux goûts et aux besoins de tous. L'aide à l'autonomie dans les déplacements décortiqués. Le stationnement du supermarché IGA de Coaticook sera l'hôte de la toute première journée dédiée à l'aide à l'autonomie dans les déplacements. Cette activité, organisée par le Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook, aura lieu le 17 octobre prochain et elle s'adresse principalement aux aînés ainsi qu'à leurs proches aidants. Sur place, les gens prendront connaissance des services d'accompagnement du Centre d'action bénévole, en plus d'en apprendre davantage sur l'offre d'ergothérapie, ainsi que celle reliée à l'aide à la motricité. Un atelier sur les quadriporteurs, leur fonctionnement ainsi que les politiques de sécurité sera offert. Les participants sont attendus à compter de 13h30. Le rendez-vous se conclura aux alentours de 16h30. Il est M. Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, autrement dit le RAC, et je vais m'entretenir avec lui tout de suite. M. Antoine Perrault, bonjour.
Bonjour, madame.
Monsieur Perrault, nous allons aborder des questions sur l'accès à l'information pour les personnes qui ont une déficience visuelle.
Oui.
Lorsqu'on À quoi on pense exactement quand on évoque l'accès à l'information pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes?
À beaucoup de défis, je vous dirais.
Oui.
L'UNESCO mentionne que l'accès à l'information englobe toutes les questions concernant la disponibilité et l'accessibilité de l'information. Notre gros défi, c'est de s'assurer que les personnes aveugles et malvoyantes puissent accéder aux mêmes informations. Comme vous le savez peut-être, les personnes handicapées visuelles utilisent des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents, munis de logiciels de revue d'écran ou lecteurs d'écran, des logiciels de grossissement. Ça leur permet d'accéder au web, d'avoir un maximum de renseignements, d'effectuer des transactions, beaucoup d'autres opérations électroniques. Cependant, ça peut uniquement se faire si les sites web se conforment aux normes d'accessibilité du web. Ah. Ça, c'est une des grandes parties qu'on travaille, donc l'accessibilité du web. Mais on peut penser aussi tout ce qui est accès à des livres, à des à la poste aussi, des services de base.
Oui, c'est assez large. Oui, c'est ça exactement. Parce que vous, je pense que le RAC s'inscrit en faux. C'est pas, vous n'avez pas du tout envie que les boîtes postales qu'on va voir fleurir un petit peu partout, des boîtes regroupées, appelons-la comme ça là.
Oui.
Vous pensez que c'est vraiment pas une bonne chose pour les personnes qui ont une déficience visuelle?
Le RAC a fait plusieurs représentations au ministère des Services publics et de l'approvisionnement du Canada concernant effectivement l'implantation des boîtes postales communautaires.
C'est ça, excusez-moi. Je cherchais le mot. Merci, monsieur,
oui,
de m'avoir aidé.
D'accord. Concernant leur accessibilité, on est inquiet, en fait, parce qu'on sait que les boîtes postales communautaires sont pas nécessairement toujours dans des endroits accessibles. Ça peut être dans le fond d'une pharmacie, ça peut être dans un stationnement, ça peut être près d'une route passante. Donc, lors de la dernière consultation qu'ils ont fait, en fait, nous, on a envoyé une lettre. On a fait plusieurs lettres qu'on a envoyées au ministère et au groupe de travail de l'examen de Poste Canada pour mentionner qu'on s'oppose à l'implantation des boîtes postales communautaires, effectivement.
Alors, espérons que ce soit entendu.
On l'espère, oui.
Dites-moi, il y a quelque chose qui m'a surprise en préparant cette émission-là.
Oui.
C'est lorsque j'ai vu que la documentation en gros caractères, donc à l'usage des aveugles, n'est pas reconnue au même titre que le braille ou le CD.
En fait, notre demande, c'est pas qu'elle n'est pas reconnue.
Okay.
C'est qu'elle n'est pas officiellement et explicitement mentionnée. Ce qui fait qu'elle n'est effectivement pas reconnue.
Ça change
nous,
quoi?
Nous, on a fait des représentations. Et on demande à Poste Canada de reconnaître la documentation en gros caractère dans le règlement.
Okay.
Sur la documentation à l'usage des aveugles. Effectivement. On reconnaît que ce règlement-là est très intéressant. Ça permet à beaucoup d'associations et aux institutions de mieux communiquer avec leurs membres.
Oui.
Mais c'est sûr qu'avec le gros caractère, ça donnerait un bon coup de pouce supplémentaire. Là.
Puis il y a plein de choses, nous voyants, dont on n'a pas vraiment conscience, et pourtant c'est la vérité. Par exemple, la petite fenêtre où on doit prouver qu'on est un humain en recopiant les signes, souvent, d'ailleurs ça c'est ce qu'on appelle un captcha, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Souvent, c'est pas accessible.
En fait, c'est un de nos gros travail en termes d'accessibilité du web. Il y en a plusieurs.
D'accord.
Mais effectivement, le CAPTCHA qu'on utilise en fait en termes pour les sur les formulaires qu'on remplit n'est pas accessible. Ce qui fait qu'un formulaire peut être accessible. Donc une personne non-voyante peut le remplir au complet et se rendre compte à la fin qu'elle ne pourra pas confirmer la transaction parce qu'il y a un CAPTCHA.
Mais quand vous parlez d'accessibilité du web, qu'est-ce que ça englobe en tout?
Je pense qu'une définition vraiment intéressante, c'est celle du Web Accessibility Initiative, qui décrit l'accessibilité du web comme une... Ça dit que l'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web. Plus précisément, l'accessibilité signifie que le web est conçu pour que ces personnes puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir de manière efficace avec le web, mais aussi créer du contenu et apporter leur contribution. On n'est pas... Il y a beaucoup de défis actuellement.
Oui.
On a beaucoup de dossiers en cours. Souvent, on se frappe au fait que ce n'est pas nécessairement la mauvaise volonté des personnes qui créent les sites web ou des compagnies qui paient pour créer les sites web, c'est plus que lorsque le site web a été créé, ça n'avait pas été pris en considération les normes d'accessibilité du web. Des normes qui existent, qui sont disponibles, mais qui n'ont pas été prises en considération. Et là, il y a tout un travail à refaire pour modifier ces sites-là.
Et oui, écoutez, je viens d'en créer un site, moi. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle moi-même, je n'ai pas répondu. Et donc, vous faites très, très bien de nous en parler ici sur les ondes. Ce que je comprends, c'est qu'il y a donc beaucoup de sites de compagnies qui ne sont pas accessibles du tout pour les personnes qui souffrent, enfin, en tout cas, qui ont un problème de vision.
Beaucoup de sites web, en fait, je ne veux pas dire la majorité des sites web, parce qu'il faut les séparer. Il y a des sites web individuels, des sites web de compagnie, des sites web qui ont des services. Oui. Mais beaucoup de sites web ne sont pas accessibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais un peu plus tôt, les personnes avec les personnes malvoyantes vont utiliser plusieurs moyens d'adaptation.
Que ce soit
des logiciels de grossissement, des synthèses vocales, des synthèses vocales avec afficheur braille. Parfois le braille uniquement pour les personnes qui sont sourdes aveugles. Alors, faut pas. Quand on parle de créer un site web accessible, c'est des sites web qui vont bien. En fait, qui vont être accessibles à ces lecteurs, par exemple, ces synthèses vocales-là, qui vont ne pas. Il y a certaines règles à respecter.
Bien sûr, je comprends.
Quand elles ne sont pas respectées, ça fait que les personnes ne peuvent pas du tout naviguer dans le site web, dépendamment de à quel point le site web ne respecte pas les normes, ou simplement que c'est excessivement laborieux de naviguer dans le site Internet.
Je comprends. Ce qui veut dire, monsieur Perrault, que finalement, vous avez beaucoup de pain sur la planche.
On a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de... Oui, effectivement, il y a beaucoup de travail. Bon. Je dirais qu'on a plusieurs façons de travailler. On peut penser parfois uniquement aux lettres qu'on va envoyer pour demander des modifications ou pour demander que les personnes respectent les normes d'accessibilité. On travaille aussi en partenariat avec certains organismes, certaines compagnies qui nous appellent et qui veulent rendre leur site web accessible. Souvent, c'est pas nécessairement, comme je disais tantôt, de la mauvaise volonté, mais il y a des défis de taille à relever. C'est sûr que faire des évaluations fonctionnelles de sites web, qu'on va appeler, évaluer les sites web avec les moyens d'adaptation, c'est excessivement important. Et ça fait qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Bon, une personne peut analyser le site web et dire, bon, mais là, ça bloque, là, ça bloque, là, ça bloque. Il faut trouver des solutions.
Mais oui, absolument. Et alors, vous êtes là?
Oui, on est là. Le RAC travaille fort.
C'est ça, le RAC travaille fort. Et Antoine Perrault, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura l'occasion de reparler ensemble et que vous nous reparlerez de toutes ces démarches en ce moment que vous faites pour rendre la vie un peu plus facile aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle.
Au plaisir de se reparler bientôt.
D'accord, Antoine. Antoine Perrault, je vous souhaite, tiens, vous aussi, une très, très belle fin de journée, M. Perrault. Antoine Perrault, qui, je vous le rappelle, est coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Actualité canadienne, ils sont deux. Ils s'appellent Jean-Sébastien Fournier et France Talbot. Ils ont conçu une thérapie pour aider les gens qui souffrent de maladies chroniques à vivre avec leurs conditions. Avec la thérapie Destination, les malades utilisent l'écriture sur l'Internet sans avoir à consulter de thérapeute. Destination est actuellement testée sur des participants. L'étudiant à la maîtrise en psychologie, Jean-Sébastien Fournier, a une raison bien personnelle de s'intéresser aux maladies chroniques. Sa mère est atteinte de la sclérose en plaques et il a vécu de près les frustrations reliées à la maladie. Ces personnes passent par un processus de deuil. Ça peut être extrêmement difficile, selon lui. Jean-Sébastien Fournier, qui s'est donc intéressé à la thérapie par l'écriture sur Internet. Et c'est un programme qui se décline un peu comme un cours en ligne d'une durée de 5 semaines. L'étude vise à savoir si une thérapie par l'écriture peut aider ces personnes à mieux accepter leurs conditions. La professeure et psychologue France Talbot supervise l'étude. Selon elle, revisiter ses objectifs de vie peut faciliter l'acceptation et l'adaptation à une maladie physique chronique ou à une douleur chronique. Alors l'écriture permet aux gens de trouver un sens à la perte et donner une nouvelle direction à leur vie, d'où le nom destination. La docteure France Talbot qui souligne qu'il y a des pressions grandissantes pour un plus grand accès aux services de santé mentale. Selon elle, l'utilisation de la technologie peut être un moyen de faciliter cet accès, en particulier pour les gens qui vivent en région rurale. Les thérapies par Internet sont accessibles, elles n'exigent pas de déplacement, ce qui peut, selon la docteure Talbot, encourager la participation. Au Nouveau-Brunswick, comme dans d'autres provinces, au niveau de services de psychologie, il y a une pénurie de psychologues à laquelle on tente de remédier, de dire la docteure France Talbot, qui croit qu'une approche thérapeutique par Internet peut représenter des avantages, puisqu'elle mobilise moins de ressources humaines. Les gens intéressés à participer à cette étude peuvent communiquer avec le laboratoire de psychologie clinique de l'Université de Moncton, ou encore visiter le site e-thérapie.ca, mais e-thérapie en fait, .ca, en un seul mot, thérapie au pluriel. Une invitation, ma foi, fort intéressante à un souper tournant Jazz and Jazz le jeudi 6 octobre, autrement dit ce soir, de 18 à 21h. C'est au Jarry 2e. Il s'agit d'un souper conférence-conseil, une soirée d'immersion dans les tabous concernant la déficience intellectuelle. Ces soupers sont réservés aux proches de personnes vivant avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Ils proposent un souper trois services, incluant un verre de vin et une conférence animée par un ou une experte sur le sujet. Et c'est seulement 22 $, taxes incluses, pour cette soirée-là. Jazz and Jazz, c'est la 5e édition. C'est un concept de souper qui offre aux proches aidants des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de se réunir autour d'un bon repas pour échanger sur leur réalité et partager leurs préoccupations sur les différentes étapes de la vie de ces personnes. La conférence ce soir, donc le déroulement de la soirée, de 18h à 18h30, c'est l'apéro-conférence. De 18h30 à 20h30, c'est le souper jazzé. Et de 20h30 à 21h, on parle ici d'une conclusion sucrée. Alors, 22 $ par personne. On peut réserver en ligne à soutien@amdi.info. soutien@amdi.info. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent les paractualités du jour en ce 6 octobre 2016. Clotilde Seille au micro, qui remercie son équipe, Mathieu Tessier ainsi qu'Anne-Laure Janson, qui vous remercie également d'être là, fidèle à cette émission et à toutes les autres de la programmation de Canal M. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 11h30 pour de nouvelles paractualités.